On croise tout le temps des auteurs dans la rue, ils n'ont pas l'étiquette d'auteur sur le visage. Mais je pense pas que ça puisse arriver à tout le monde. Je pense qu'il y a quand même une construction, une éducation, une construction mentale sur la capacité à nommer ses ressentis, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent enfermés dans une façon de fonctionner et qu'ils n'arrivent plus à se décaler. Même s'ils ne sont pas bien dans cette situation-là, la plupart du temps, ils sont mal, mais ils n'arrivent pas à le dire, juste ça. J'étais mal là-dedans, c'est... rien que ça, c'est innommable.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Dans ce quatrième épisode, sur le vif, nous allons tendre nos oreilles vers une voix, souvent trop silencieuse et inaudible dans les affaires de violence intrafamiliale. La voix de l'agresseur. Nous allons nous demander s'il existe des profils types d'auteurs de violences conjugales. Car comment expliquer que des personnes peuvent transformer des relations intimes supposées fondées sur les sentiments, l'égalité et la confiance, en un enfer relationnel fait de violence? Nous avons a priori du mal à le comprendre. C'est donc notre nouvelle invitée, éducatrice spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violences, ici en Ardèche, qui vient nous éclairer aujourd'hui sur la nécessité de ne pas laisser les agresseurs devenir les nouveaux oubliés de la République.
Donc je suis Estelle Dumas-Leparco et je suis éducatrice spécialisée sur le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, donc le CPCA. C'est un dispositif qui a vu le jour à la suite du Grenelle contre les violences faites aux femmes. À la base, il y a eu une expérimentation sur certains départements et ensuite le dispositif a été généralisé sur tous les départements de France. Le premier objectif était de répertorier sur les territoires qu'est-ce qui existait à destination des auteurs. Donc on a rencontré tous ceux qui notamment proposent des stages sur le département de l'Ardèche, donc la DSEA, l'hôpital Sainte-Marie et le SPIP maintenant. Au début, on avait dans l'idée de créer des stages collectifs, voyant que ça existait déjà. On s'est dit que ce n'était pas utile. Donc on a changé un petit peu l'orientation du dispositif pour aller vers une prise en charge individuelle, parce que ça manquait sur le territoire de l'Ardèche.
Ça n'existait pas vraiment avant ?
Non. Non, notamment par rapport à l'obligation de soins, lorsque les auteurs sont condamnés et que le juge leur demande de rentrer dans une obligation de soins. Les CMP, les centres médico-psychologiques, sont complètement saturés et ne peuvent pas répondre à cette demande. Donc on a été sur ce versant-là en se disant que la complémentarité psychologue éducatrice spécialisée était totalement bénéfique sur ce type de personnes.
En France, les auteurs de violences contre partenaires intimes ont été longtemps l'angle mort des connaissances scientifiques et des politiques publiques. Une priorité légitimement donnée aux victimes, aux difficultés de leur prise en charge et à une pratique judiciaire essentiellement punitive. En 2022, selon Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, 6000 personnes auraient été accueillies dans 30 centres de prise en charge des auteurs de violences répartis sur l'ensemble du territoire.
Donc je travaille avec un psychologue, Patrice Mouillon. On travaille tous les deux sur les deux départements, Drôme et Ardèche. On a une chef de service et une secrétaire.
Une secrétaire.
Ouais.
Donc vous êtes deux.
On est deux.
Deux à accompagner donc, des auteurs de violences.
Oui, c'est pas suffisant. Mais c'est comme tout projet qui débute. Il faut d'abord rendre compte des besoins. Et c'est, voilà, on monte en charge petit à petit. Moi, maintenant, je suis à mi-temps. Au début, j'ai commencé, j'étais à 20%. Maintenant, je suis à mi-temps. Et l'idée, c'est de faire remonter ce besoin qui existe partout, finalement.
Oui, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la libération de la parole des victimes de violences. On essaye vraiment de mettre des dispositifs pour les prendre en charge. Mais est-ce que vous pensez que les auteurs étaient négligés dans leur prise en charge pendant longtemps ?
Oui, il n'existait pas grand-chose. Alors, pas rien non plus. Les groupes existent depuis un certain temps. Sur d'autres départements, ça fait très longtemps que c'est en place, notamment Paris, etc. Mais vraiment que ce soit généralisé et que ça soit entendu comme un financement de l'État avec une vraie dynamique pour aller re-questionner les auteurs eux-mêmes et se dire qu'il y a besoin de les accompagner parce que si on n'accompagne pas les auteurs, on peut soigner les victimes. Si on ne soigne pas les auteurs, ils vont retrouver une autre victime et on recommence. Et puis, le psychologue avec lequel je travaille aime beaucoup dire « il n'y a pas d'auteur heureux ». Et c'est vrai, il n'y a pas d'auteur heureux. Les personnes qui sont auteurs de violences conjugales, elles ne sont pas satisfaites de ce qui s'est passé et elles ne vivent pas bien la question de la violence. Donc il faut forcément proposer du soin et de l'accompagnement pour faire bouger un petit peu les choses.
Avant le Grenelle contre les violences intrafamiliales de 2019 et la création de ces centres de prise en charge des auteurs de violences, des associations se sont emparées dès les années 90 des questions des violences systémiques dans le couple et dans les familles. Pour évaluer l'efficacité du système judiciaire sur la prévention des récidives, l'association belge Praxi débute en 2000 le premier groupe de responsabilisation composé exclusivement d'auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Résultat chiffré, 21% des auteurs récidivent après avoir participé au programme de l'association avec groupe de parole contre 52% après un emprisonnement sans prise en charge.
Les personnes justement auteurs de violences qui poussent la porte, est-ce qu'ils y vont volontairement ou est-ce qu'ils sont suivis déjà parce qu'ils ont été jugés? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent volontairement?
Alors pas assez. Très peu même. On aimerait bien beaucoup plus parce que être avant le passage à l'acte, on serait dans la prévention. Donc ça, ce serait vraiment ce serait l'idéal. On n'y est pas du tout. Là, on est vraiment sur des personnes qui nous sont orientées dans le cadre de la justice, qui ont été condamnées, qui ont une obligation de soins, c'est-à-dire qui doivent prouver au juge qu'ils ont engagé des démarches de soins. Donc ils viennent pour rencontrer le psychologue et avoir une attestation. Comme quoi ils ont engagé une démarche de soins. Et après, nous, c'est tout le principe de transformer la relation avec la personne dans le cadre d'une obligation pour l'amener à de l'adhésion. Et donc ça, c'est le boulot qu'on fait, aussi bien le psychologue que moi, de travailler le lien pour que la personne adhère. Et du coup, on avance mieux et plus loin.
Et une fois qu'ils ont passé la porte, comment se passe l'accompagnement ?
On a deux façons de travailler un petit peu différentes et complémentaires. Avec le psychologue, lui, il reçoit tous les auteurs de violences. Moi, je vais les recevoir en fonction des besoins. Donc, soit parce que lui, il a détecté qu'il y avait besoin d'une présence et d'un accompagnement global au-delà de la question des soins psychologiques. Donc là, je vais rencontrer la personne, soit dans les bureaux à Priva, soit je me rends à domicile. Ce qui permet notamment sur notre secteur rural d'éviter des frais de déplacement pour des personnes qui vont avoir des moyens limités. Donc je me rends au domicile et après je vais les accompagner au début sur des besoins repérés de type ouverture de droit. Parce qu'il y en a certains qui vont sortir d'incarcération ou pas d'ailleurs, qui ont laissé un petit peu les choses se déliter et qui ne vont plus avoir de ressources, qui ne vont plus avoir de sécurité sociale. Et il y a un petit peu un sentiment de... un ressentiment. Plutôt, j'ai été condamnée, pour peu que dans le tribunal il y avait que des femmes, j'ai été condamnée par des femmes, par ma femme, et maintenant je me retrouve sans rien, je suis dehors, je ne peux plus accéder à mon domicile, et voilà, ils entretiennent cette chose-là. Donc moi l'idée, ça va te faire redescendre un petit peu cette amertume en ouvrant les droits, en leur disant « Ok, il s'est passé ça, mais on peut travailler, on peut avancer. »
En lui rappelant les droits au quotidien qu'il a.
Oui. Oui.
Qu'elle a, cette personne.
Oui, et rétablir aussi l'estime de soi, du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas victime d'une décision. À un moment, il s'est passé des choses, vous aviez aussi les moyens d'agir avant qu'il se passe ces choses-là. Donc, à quel moment vous avez laissé les choses se déliter ? À quel moment vous allez reprendre en main votre existence, c'est-à-dire donc réouvrir vos droits, apaiser un petit peu la colère et du coup travailler sur ce qui s'est passé en reprenant du pouvoir d'agir et de l'estime de soi.
Donc c'est un travail très complémentaire avec le psychologue.
Totalement.
Qui travaille vraiment sur la gestion, j'imagine, des émotions, oui. De son état peut-être de stress et le vote qui est complémentaire dans ses actions, de ses droits au quotidien.
Oui, et qui est dans l'action. J'ai un certain nombre de personnes qui ont perdu un petit peu foi dans les dispositifs de droit commun. Donc de les apaiser par rapport à ça, oui, vous pouvez pousser la porte d'un CMS pour vous faire accompagner. Vous n'êtes pas obligé de venir en tant qu'auteur de violence conjugale. Vous venez comme monsieur et madame tout le monde parce que c'est un droit comme n'importe qui. Donc on va y aller ensemble pour le premier rendez-vous, pour essayer d'apaiser, que la demande de la personne soit entendue, pour que la fois suivante, il puisse y aller. Et qu'il se rende compte que, qu'il peut agir sur les choses et qu'il n'est pas victime d'un système.
Victime. Prise au piège d'un système. Mais de quel système parlent donc les agresseurs quand ils se jugent victimes dans une société où la violence est avérée majoritairement masculine ? Pourquoi est-il si dur, si difficile pour les hommes violents de se confronter à l'origine de leurs blessures et de se responsabiliser quant à leurs propres actes de violence commis sur autrui ?
La majorité de ces personnes sont des hommes ou est-ce que vous accompagnez aussi pas mal de femmes ?
On a quelques femmes, ça reste minoritaire mais il y en a quand même quelques-unes. Et c'est une majorité d'hommes, ouais, totalement. Avec, on a un petit peu toutes les couches sociales. On a des fois un peu le préjugé que les auteurs de violence sont, je vais le dire vulgairement, des cassos, comme on peut entendre dans le langage courant. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment des personnes qui sont tout à fait installées dans la vie de tous les jours, qui ont un bon salaire, qui ont une famille où tout va bien. Et à un moment, il y a un événement de violence où il y a des événements de violence qui sont venus un petit peu s'aligner les uns à la suite des autres, quand on est dans des systèmes d'emprise, par exemple. Et à un moment, la justice leur tombe dessus, ou madame ou monsieur réagit en face. Et là, c'est un point d'arrêt à ce qu'ils avaient mis en place depuis des années. Donc, on a vraiment tout type de profil.
Il n'y a pas un profil, il y en a une
diversité. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Autant, on peut avoir aussi des personnes qui ont vécu dans la violence toute leur vie, où c'est un système de fonctionnement. Quand ils étaient petits, c'était comme ça que ça se passait. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appris à faire famille, à être ensemble, à être couple. Donc, ils reproduisent ce qu'ils ont appris. Donc, il faut arriver à déconstruire un petit peu cette représentation-là. L'éducation. L'éducation, ouais. Oui, ou de parcours de rue, ou tout simplement des personnes qui ont pas forcément appris à nommer leurs émotions, où la représentation de l'homme est aussi beaucoup basée sur un homme ça pleure pas, un homme ça dit pas que ça a mal, où il faut déconstruire cette représentation-là. C'est beaucoup ça, beaucoup un travail de déconstruction et de mise en mots. D'arriver à nommer ses émotions, à nommer sa colère, à partir des fois, quand on sent qu'il y a du trop et qu'il faut arrêter les choses parce que ça va déborder, ben, il est aussi là leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez prendre la porte et vous en aller. Si la relation est trop toxique, vous pouvez faire le choix de l'arrêter aussi.
C'est le positionnement que vous avez lorsque vous les accompagnez lors du premier entretien, d'être à l'écoute et leur montrer que vous n'avez pas du tout un positionnement de jugement. Au contraire, vous n'êtes pas là pour juger de la situation, quoi que ce soit, mais pour les accompagner à s'exprimer, à ce qui soit mieux, tout simplement.
Oui, le tout premier entretien, c'est beaucoup ça. Ils ont besoin de livrer, vraiment, d'écoute. Ils ont très souvent le sentiment de ne pas avoir été entendus. Donc nous, le premier, il est vraiment important pour qu'ils se livrent et on prend ce qu'ils nous donnent. Et après, à partir de ce qu'ils nous donnent, nous, on va aller travailler sur les mots qu'ils ont utilisés, sur les ressentis, etc. Mais ce premier entretien, c'est vraiment un entretien de dépôt et qui est essentiel pour pouvoir travailler par la suite.
Et une mise en confiance avec vous aussi ?
Oui, bien sûr, sur le long terme. Alors, moi, j'ai eu besoin de déconstruire beaucoup de choses aussi parce que je suis arrivée avec mes représentations sur cette mission-là, forcément. On n'arrive pas neutre. Donc j'ai dû déconstruire ces choses-là en laissant la place justement de cette écoute et de me dire c'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais les auteurs de violences conjugales, mais ça fait du bien parce que ça reste presque monsieur et madame tout le monde finalement.
Se faisait montrer du doigt. On improvisait des querelles pour se préparer. Fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs. On en ferait des tonnes pour être bien sûr qu'on serait des bonhommes. Ouais, qu'on serait des bonhommes.
ça nous réchauffait. On ne voyait pas que nos ombres, ça les étouffait. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes.
Ils arrivent à mettre des mots lors du suivi, à reconnaître certains faits, certains comportements, où c'est toujours difficile, où... Ça dépend, j'imagine, des profils.
Ça dépend. Il y a des personnes qui vont arriver en disant « je ne comprends pas du tout ce que je fais là, je ne vois pas ce qu'on me reproche ». Et d'autres qui vont dire « oui, en effet, il s'est passé ça ». Il s'est passé ça, mais avant, il y a eu ça, 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 ça. Donc nous, on va venir déconstruire ce « mais avant, il y a eu ça, 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 ça ». Et on va voir avec eux à quel moment ils auraient pu faire autrement et à quel moment ils ont une responsabilité dans le fait d'être devant nous à ce moment-là. Mais il y a vraiment, oui, il y a vraiment les deux cas de figure. Et on a aussi les deux cas de figure dans des violences qui sont installées depuis longtemps, qui sont une façon de fonctionner, et des violences vraiment très ponctuelles. À un moment, il y a eu un débordement, le conflit a chaviré sur de la violence, et ça s'est peut-être passé qu'une fois, une fois de trop. Mais du coup, on va venir travailler sur cette fois de trop. Mais ce n'est pas dans une construction qui dure depuis 20 ans, où la personne elle est dans ce fonctionnement, qui est très installée, où là, le travail il est vraiment plus profond, il prend beaucoup plus de temps.
Vous avez une situation, une personne que vous avez accompagnée, sans la nommer évidemment, où vous avez vu une vraie progression.
Oui, j'ai une personne en tête que j'ai accompagnée qui est sortie d'incarcération, un petit peu précipitamment, du jour au lendemain, avec une interdiction de territoire, il ne s'y attendait pas du tout. Et sur ce territoire-là, puisque la victime, son ex-compagne, était sur la commune où il avait son logement, lui, où il a son père également, et son emploi. Donc il n'a pu plus accéder à sa famille, à son emploi, et il est sorti sans ressources. Donc là, on avait beaucoup de colère en sortant d'incarcération. Il a été hébergé parce que nous, sur le dispositif, on a une convention qui est passée pour proposer des hébergements en hôtel avec le groupe SOS qui finance sur des durées limitées. Donc on lui a proposé un hébergement sur un mois qu'on a réussi à prolonger un petit peu, le temps au moins déjà de réouvrir ses ressources, de remettre à jour un petit peu ses droits. À la suite de ça, il a basculé sur une structure d'hébergement en Ardèche. Là, il a retrouvé un emploi, un chantier d'insertion. Il a plus du tout l'intention de retourner sur le secteur où il vivait auparavant, au-delà de l'interdiction, mais parce que il est en train de reconstruire quelque chose ailleurs. Et il a maintenu des liens, il a un enfant qui est placé, donc il a maintenu des liens dans le cadre des visites médiatisées. C'est quelque chose qui est très important, la question de la parentalité autour des auteurs de violences conjugales, elle est vraiment centrale. C'est quelque chose qui revient tout le temps parce que les enfants sont des victimes également dans le cadre des violences. Et bien souvent, les pères, parce que c'est souvent ça, sont, alors pas déchus de leur autorité parentale, mais en tout cas ont des droits largement diminués. Et pour certains, c'est pas possible de faire autrement, mais pour d'autres, ça serait possible autrement. Et ça, c'est un gros travail, un gros enjeu.
Et il y a un ressentiment là-dessus.
Ah, total. Énorme, aussi. Énorme. Très, très profond, très... Ouais. Et mon travail d'accompagnement, par exemple, autour de ce jeune, c'est... Donc, il n'a pas de véhicule, il n'avait pas de ressources. Donc, aller aux visites médiatisées, quand on n'a pas les moyens de... quand on n'est pas mobile, c'est compliqué. Donc moi, je l'ai accompagné physiquement sur ces visites médiatisées qui se passaient vraiment très bien et pour lui qui était central. Ça a permis d'adoucir, que son ressentiment baisse un peu. Et une fois que tout ça est un petit peu mis en place, là, on peut aborder la question des violences. Il a pu aller voir le psychologue, chose qu'il refusait au début, parce qu'il n'avait pas besoin de soins, parce qu'il avait d'autres choses à traiter. Finalement, quand on ne sait pas de quoi demain est fait, qu'on ne sait pas comment on va manger et comment on va vivre, la question d'aller voir le psychologue, elle arrive après. Donc il faut d'abord...
D'où l'essentialité de vous avoir, vous, en tant qu'éducatrice, pour d'abord être dans l'action, d'installer un cadre, un environnement sain autour de cette personne.
Oui, sécurisant, qui lui permette de se poser d'autres questions. Je sais de quoi demain sera fait, je sais que mes ressources, elles tombent, je sais que je viens de trouver un emploi. Ok, je suis réintégrée dans la vie sociale. Maintenant, comment je bosse sur ce qui s'est passé, sur les faits qui me sont reprochés, et surtout, comment je fais pour ne pas les reproduire la prochaine fois dans une autre relation. et que je me soigne. Finalement, c'est ça la finalité.
Sur le vif.
Est-ce que vous les sentez, il y a un ressentiment, vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous les sentez vraiment abandonnés, notamment ici en milieu rural, où le lien de pouvoir se référer à d'autres institutions, à pouvoir être aidé, le fait qu'il y ait moins de services publics, est-ce que ça impacte vraiment leur isolement et le travail qu'ils peuvent mener au quotidien ?
Oui, et puis la ruralité fait que tout le monde se connaît. Donc, quand il y a des choses comme ça qui émergent, forcément, tout le village est au courant. Donc, l'image, après, que les personnes ont sur elles, elle est très, très, très dégradée. Et elle est tournée vers une institution. Nous, nos locaux sont sur Privas. Le psychologue, il a des lieux de rencontre, donc Privas, Le Teil, Annonay et Tournon. Il faut que les personnes puissent se déplacer vers lui. Moi, je vais avoir de la mobilité. Lui, il n'en aura pas parce que le temps et le cadre de son intervention fait que voilà, c'est aux personnes d'y aller. Mais en ruralité, ça pose quelques freins. Le permis, les ressources, c'est compliqué. Donc moi, si on m'interpelle, je vais pouvoir me déplacer. Mais il faut que la personne soit en capacité d'interpeller. Et c'est là où, des fois, c'est un petit peu compliqué parce que pousser la porte, sachant que tout le monde nous voit sur la place publique, la porte d'une institution qui va être étiquetée, et ben faut déjà qu'il ait une forme de reconnaissance de ce qui s'est passé. Et c'est compliqué, mais je pense que le maillage sur des associations de secteur, on est en lien donc avec la Passerelle des Vallées, avec Cultivons la Confiance, et le fait qu'on soit en lien leur permet d'aller passer cette porte-là de la Passerelle des Vallées pour un colis alimentaire, imaginons, et en même temps d'aller questionner autour des violences.
Et au final, plus on en parle, plus c'est normalisé. Totalement. Et moins on a honte de venir s'exprimer et de reconnaître que voilà, on a besoin de travailler là-dessus.
Oui. Oui, 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 et que rien n'est, moi je crois fondamentalement la capacité de l'homme de pouvoir se réinterroger, se re-questionner, et je pense que rien n'est...
Inné.
Ouais. Rien n'est inné. Oui, oui, tout à fait. Rien n'est inné. Et on peut retravailler tout ça, mais il faut une démarche de la personne.
Non à l'ignorance.
Non à la violence.
Parlons à l'unisson.
Mais aujourd'hui, quels sont vos besoins concrètement au CPCA ? Est-ce qu'il y a des problématiques que vous confrontez ? Du temps, des moyens pour pouvoir accompagner ces personnes à la hauteur que vous souhaiteriez. Quelles pistes d'amélioration on pourrait vous apporter aujourd'hui si des élus vous écoutent
Les pistes, elles sont très claires. C'est des moyens. Des moyens en temps qui va forcément avec les finances. Moi, actuellement, donc, je suis à mi-temps sur les deux départements, la Drôme et l'Ardèche. On est porté par la NEF Vallée du Rhône, l'association qui porte le projet. Mais aussi bien le psychologue que moi, on commence à avoir des listes d'attente sur les départements parce qu'on n'arrive pas à combler toutes les demandes et qu'on sait qu'il y a encore des besoins derrière. Donc mon mi-temps, je fais beaucoup plus que mon mi-temps dans les faits, mais ça c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça qu'on met en avant les besoins, mais ouais, du temps. On a besoin de temps supplémentaire. Ça,
d'autres personnes aussi
D'autres personnes.
Formées à ce métier de soit psychologue ou éducatrice qui rejoignent le CPCA.
Le dispositif, oui, si on pouvait étoffer un petit peu l'équipe, parce qu'on est deux, alors on est très complémentaires, il n'y a pas de souci, on a été formés, nous au début on a été recrutés. De pouvoir échanger et avoir un regard différent sur l'accompagnement qu'on peut avoir parce que c'est essentiel.
Ça demande une bonne formation, moi.
Ça demande une bonne formation et ça demande d'être vraiment dans l'échange au même titre que l'accompagnement qu'on propose, d'être en capacité de nommer les ressentis que la personne nous fait vivre en face et de dire ben là je suis un petit peu en difficulté parce que cette personne me renvoie ça, tel sentiment, ou elle me repousse, ou au contraire elle m'attire, et de pouvoir en échanger en équipe, c'est essentiel pour ajuster notre accompagnement et être le plus juste possible dans ce que la personne a besoin.
Vous parliez du problème de la mobilité tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce que le fait d'être, d'avoir des centres un peu plus répartis sur le territoire, différents... Bon, il faut aussi les moyens humains avec, évidemment, oui. Les personnes qui peuvent répondre présentes et tenir des permanences. Mais il manque de la visibilité sur le territoire parce qu'on est sur un territoire enclavé.
Oui.
Et donc, on ne peut pas se déplacer aussi facilement.
Non, avec vraiment des bassins de vie. L'Ardèche, elle est vraiment découpée comme ça, avec plusieurs bassins de vie. Donc le psychologue va intervenir sur les bassins de vie vraiment les plus importants, mais toute la ruralité,
les petits villages,
en l'occurrence le Cheylard par exemple, c'est compliqué de venir jusqu'ici, donc moi je vais pouvoir me mobiliser, mais je ne pourrai pas accompagner 20 personnes sur le secteur du Cheylard, ce n'est pas possible. Donc on est limité.
Donc de se rendre compte de ce problème géographique qui impacte votre travail en fait, et les personnes qui pourraient être prises en charge.
Oui, et que du coup notre visibilité est limitée parce que quand on va prospecter, j'aime pas trop ce mot mais c'est un petit peu l'idée, au moins faire connaître le dispositif et la possibilité pour les personnes de nous rencontrer. Derrière, si on n'a pas les moyens à mettre en face en disant bah ok venez nous voir mais on sait pas trop ce qu'on pourra faire, bah c'est compliqué. Par exemple, le Sud-Ardèche, on n'y est pas du tout. En dessous d'Aubenas, à partir de... Même Aubenas, on n'y va pas. Et tout ce qui est sud, les Vents, etc., on ne peut pas.
Et vous n'êtes pas en lien avec d'autres structures qui peuvent reprendre ce que vous faites un peu ou non c'est...
On ne peut pas parce qu'on est vraiment, fléchis auteur violence conjugale. Et il y a vraiment que nous, sur le département, qui avons déjà ce peu de mobilité, mais qui l'avons quand même. Il n'y a que nous. Après le reste on tombe sur des dispositifs de droit commun qui peuvent être tout à fait compétents en fonction des besoins des personnes, mais je sais que parfois les CMS ou les CMP auraient besoin d'être en contact avec nous, mais on ne peut pas répondre.
Bien sûr.
C'est pas possible.
Sur le vif.
Plus de moyens financiers, plus de moyens humains. Investir humainement contre les vifs dans nos territoires ruraux, c'est reconnaître que l'urgence est au décloisonnement, autant pour les victimes que pour les auteurs de violences. S'engager à faire tomber les barrières de précarité et défendre un accompagnement de proximité permettra de créer un espace où chacun aura la liberté de s'exprimer, de se questionner et de se réinventer, sans aucun jugement ni mépris.
Je vais vous poser une question assez personnelle. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier que vous faites en tant qu'éducatrice, c'est d'accompagner ces personnes qui ont besoin d'aide pour avancer, reconnaître certains torts qu'elles ont eus, mais en même temps se reconstruire.
Ce que j'aime, c'est déjà le premier décalage que ça m'a obligé sur la représentation que j'avais. Et le fait que pour l'instant, c'était quelque chose de complètement invisibilisé, les auteurs de violence. C'était juste des méchantes personnes. Voilà, point. J'avais un peu cette représentation-là. Et pour moi, il y a des choses à faire bouger. Et encore une fois, je suis tellement convaincue de la capacité de l'humain à se réinventer que pour moi, il y avait quelque chose à faire sur ce public-là.
Et à ne pas... les opposer ou les diviser, faire méchant, gentil. Il faut être dans un rapport non manichéen.
Exactement.
Et de dialogue.
Oui, de dialogue et d'ouverture et de se dire que si demain c'est notre voisin ou notre oncle ou nous, qu'en fait on peut agir. On peut agir, on n'est pas juste là témoin en se disant bon bah ok, on appelle les forces de l'ordre, il y a une séparation, ok c'est bon, le boulot il est fait. Non. Il vient juste de commencer. C'est vraiment juste le début.
Autant pour la victime que pour l'auteur.
Totalement. Totalement. Et oui, j'aime bien cette confrontation-là et l'idée d'être sur quelque chose d'un petit peu novateur et inexistant jusqu'à présent. Je trouve que c'est hyper intéressant.
À quel moment le suivi s'arrête ? C'est vous qui le décidez ou on vous l'impose d'une certaine manière ou vous jugez d'une certaine situation que là, c'est bon, cette personne est autonome, sécurisée, elle peut continuer son chemin par elle-même ?
Comme on travaille avec la justice, le cadre de l'obligation de soins, il est fixe, c'est bien souvent 2 ans. Le souci, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont besoin de plus et des personnes qui ont besoin de moins. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles justifient devant la justice qu'elles ont engagé cette démarche sur le temps qui leur a été donné. Donc le psychologue travaille justement avec les CEPIP, ceux qui sont chargés de l'accompagnement après les peines, les conseillers probatoires en insertion. Et parfois, il produit des écrits en expliquant que là, la personne a cheminé et qu'il n'y a plus forcément besoin de soins. Et pour ceux qui ont besoin de plus, c'est tout la transformation de la contrainte en adhésion. C'est-à-dire que quand le cadre de l'obligation de soins va se lever, si à un moment on a estimé qu'il y avait besoin de plus, tout le temps de travail d'accompagnement qu'il y a eu, en général, les personnels poursuivent. Parce qu'on a transformé la contrainte en adhésion et que finalement, ça peut continuer. Les auteurs qu'on suit dans le cadre des volontaires, c'est quasiment tous ça. Ils ont fini le cadre de l'obligation de soins et ils souhaitent poursuivre l'accompagnement avec nous. Et donc là, ils rentrent en tant que volontaires sur nos chiffres.
Alors que finalement, quand ils sont obligés, de soins, ils ont peut-être moins cette envie de continuer ou...
Ils n'arrivent pas avec l'envie, en tout cas.
En tout cas, ils n'arrivent pas avec l'envie.
Cas. La plupart des cas. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui viennent en disant « Oui, j'ai vraiment besoin, mais ce n'est pas la majorité. Ils n'ont pas l'envie. » Mais on est super fort. du coup, l'adhésion arrive quand même à un moment ou à un autre.
Là, nos idoles de jeunesse, là, nous font plus rêver. Là, chaque jour, la tendresse nous aide à les oublier. Si on est vraiment des bonhommes, on peut bien pleurer, c'est beau de pleurer. Nos nouveaux modèles se questionnent, à nous d'essayer. On sera des bonhommes sans jouer les durs. Et si ça vous étonne ou ça nous rassure, on sera bien conscient de nos privilèges. Ils donneront de l'élan pour éviter les pièges. On sera des bonhommes sans jouer les durs.
Si déjà la personne elle est en capacité de se rendre compte que son comportement peut déborder, elle est déjà dans une dynamique de remise en question. Il y a déjà un premier pied.
Finalement, c'est déjà un cheminement.
Ah, c'est déjà un cheminement. Clairement. Donc là, faut y aller. Appelez-nous. Vous avez déjà le premier tilt qui est en train de se mettre en place. Faut pas s'arrêter en si bon chemin. Faut y aller.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Une production de RDB Radio des Boutières, avec le soutien et la participation du collectif de lutte contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche, collectif Viferieux. Un grand merci à Madeleine Vilmino, Elsa Barato et Gaël Romeuf pour la création sonore de ce podcast, ainsi qu'à toutes les personnes chez Laroise qui ont prêté leur voix. Retrouvez et réécoutez tous les épisodes sur le vif, les voix de la résilience, en podcast sur rdbfm.com.